CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, merci d'être fidèles au mag de CFM de midi, c'est Johan en votre compagnie jusqu'à la demi. Il arrive parfois dans notre territoire que des gens s'installent sans qu'on le sache et qu'ils fassent des choses tout à fait passionnantes comme par exemple des enduits de finition avec des matériaux écologiques. Alors, on les trouve éventuellement sur des chantiers si on a l'occasion que ces chantiers soient visibles, mais sinon non. Et là, j'ai rencontré Vanessa Bourgard, qui allait à la bibliothèque, donc ça n'avait rien à voir, mais elle laissait une petite carte de visite, enduit de finition, peinture, patine, avec des produits écologiques, de la terre et de la chaux, et Vanessa a gentiment accepté de répondre à quelques questions dans nos studios. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
À 32 ans, avec des mains pas encore abîmées, vous travaillez des matériaux comme la chaux.
Oui, j'ai pas encore des mains de travailleuse très très expérimentée.
Parce que vous mettez des gants.
Parce que je les protège, effectivement, parce que je mets des gants et parce que ça fait pas aussi, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis lancée dans cette activité.
Ah, c'est intéressant. Alors, vous y êtes venue comment dans cette activité ?
En fait, je pense qu'à la base, il y a un énorme besoin d'autonomie, en fait, parce que. Ben, j'apprends à personne qu'on est assez infantilisé quand même, hein, du berceau à la tombe, et qu'on nous a pris pas mal de savoir en fait, qu'on ne peut plus l'occasion de développer. Et j'ai eu envie en fait de retourner en fait à cette autonomie là. Donc j'ai laissé un peu de côté mon ancien boulot.
Et alors c'est quoi l'ancien boulot hein?
J'étais à la fois c'était chouette aussi. Hein. Je continue encore à travailler avec les enfants en tant qu'animatrice conférencière du patrimoine. Je travaille beaucoup avec les adultes et je me suis sentie pas inutile, mais bon, je me suis lassée en fait. Et il y avait une partie de moi, me semblait-il, que je n'exploitais pas. Et alors effectivement, aujourd'hui, dans notre cursus éducatif traditionnel, on a tendance à, dès le plus jeune âge, à faire une grosse différence entre le manuel et l'intellectuel. Et ben voilà, moi, cette dichotomie-là, elle me gonfle. On peut être tout, en fait. Donc, c'est comme si à 30 ans, parce que je suis partie en formation professionnelle à 29 ans, je suis sortie à 30 ans, je réalisais un petit peu mes idéaux d'étudiante, un petit peu ce que Marx pouvait appeler l'homme ou la femme complet, c'est-à-dire qui peut se lever le matin et être capable de participer à la construction de son habitat, à écrire de la poésie après, à chanter, ensuite à aller faire son jardin. Enfin voilà, être complet, c'est ce qu'on devrait tous essayer d'être, quelque part. Et puis on peut pas tous avoir des boulots énergivores, être dans un bureau avec le PC qu'on change tous les 6 mois. Enfin, le monde peut pas fonctionner comme ça, quoi. Donc voilà, et puis après, bon, il y a une part d'irrationnel aussi là-dedans. Faut pas essayer de tout analyser. C'est-à-dire que quand on se sent appelé par quelque chose, faut y aller. Voilà, faut pas avoir peur.
Mais vous me dites animatrice conférencière du patrimoine, ça veut dire quoi, histoire de l'art comme formation ?
Oui, histoire de l'art, ouais. Et plutôt une maîtrise. J'ai fait une maîtrise professionnalisée en fait. Un IUP en fait. Donc c'était passionnant, hein, mais j'avais une part de moi que je laissais derrière, que je laissais de côté, et je pense que j'aurais eu des regrets en fait. Dans 10 ans, dans 20 ans, de me retourner sur mon parcours et me dire ah, mais t'as peut-être loupé aussi quelque chose que tu pouvais exploiter et qui pouvait être intéressant.
Alors aujourd'hui, faire des enduits de finition avec de la terre, de la chaux sur une commande d'un particulier, parce que là, vous devenez artisan du bâtiment.
Voilà.
Tout bonnement. peintre, mais avec... on reviendra sur les matériaux, c'est très intéressant, les patines et les choses comme ça. Mais en ayant ce regard d'historien de l'art, vous vous dites, il y a des maisons, on ne devrait pas faire ça. Le ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on ne devrait pas faire ça.
Oui, ben c'est vrai qu'on On a eu tendance à enfermer les maisons dans des gros enduits ciment, et ça a des répercussions qu'on commence à voir aujourd'hui, enfin qu'on voit déjà depuis 10 ans, qui sont assez énormes. Et c'est vrai que quand on a étudié les fresques, les enduits italiens qui existent encore aujourd'hui 2000 ans après, avec des couleurs qui sont sublimes, c'est vrai qu'on peut y aller les yeux fermés à faire un enduit chez quelqu'un, parce que on sait que c'est quelque chose qui dure, quoi, quand on voit que ceux qui ont 2000 ans sont encore très beaux aujourd'hui, quoi.
Alors, bon, vous travaillez, Vanessa Bourgard, vous travaillez aujourd'hui avec de la chaux.
Oui.
Quelle chaux ?
Alors, ça dépend. Ça dépend si je travaille à l'extérieur, ce qui est plus rare, parce que les travaux d'extérieur, faire des façades, ça demande de mettre en place une équipe, mais c'est possible.
Parce que il faut que toute la surface soit
faite
dans la même sèche.
Voilà. Donc, pas de raccord, etc. Parce que la chaux commence sa carbonatation à partir du moment où on l'applique. Hein, donc, il faut aller assez vite. En extérieur, c'est possible. Et en extérieur, j'utilise la chaux hydraulique. Parce que elle est très résistante aux intempéries, qu'elle est résistante au gel, au ruissellement, qu'elle est très dure en fait. Parce que c'est une chaux qui a plus d'impuretés que la chaux aérienne, justement, qu'on utilise pour les travaux d'intérieur. Et qui va pas être aussi résistante à la pluie, par exemple.
Et que je m'imagine les choses, vous projetez à la truelle, vous lissez.
À la truelle, à la taloche. Et après, il y a différents types de finitions. On peut avoir une finition qui est talochée, une finition qui est très rustique, ou une finition lissée, voire ferrée, et jusqu'au stucage, en fait.
Vous allez nous raconter tout ça en détail, mais vous savez ce que c'est que la radio. De temps en temps, on fait une pause et on met une musique.
Jean-Baptiste.
FM. C'est le mag. Tous les jours. 12h30.
On est toujours en compagnie de Vanessa Bourgard, enduit de finition, matériaux écologiques, peinture, patine, qui est venue là après avoir appris réellement quel est l'intérêt d'utilisation. Par exemple, vous citiez les fresques italiennes, c'est vrai que, enfin, italiennes, romaines.
Oui.
Disiez, hein, il y a l'Italie n'existait pas il y a 2000 ans. Mmh. En fait, il n'y a pas besoin de le démontrer, mais vous montrez que la chaux, c'est plus intelligent que le ciment.
Oui, parce que ce n'est pas un matériau qui respire, en fait. Contrairement à la terre ou à la chaux, qui sont des régulateurs thermiques et des régulateurs hygrométriques. C'est-à-dire que si dans une pièce il y a de la condensation de vapeur d'eau, s'il y a de l'humidité, elle va être absorbée par l'enduit qui va la restituer au moment d'une grosse chaleur, par exemple. Et c'est comme ça que la température et le taux hygrométrique d'une pièce peut être régulé grâce à un enduit qui respire. Donc la terre et la chaux permettent ça, ce que ne permet pas le ciment, qui est un enduit qui est très fermé, un matériau très fermé et qui ne respire pas, donc qui va emprisonner les vapeurs d'eau à l'intérieur de la maison. Et pareil pour les murs porteurs, s'il y a des remontées capillaires dans le mur, eh bien il va rester enfermé, les remontées vont rester enfermées à l'intérieur du mur, alors que avec un enduit chaud ou un enduit terre par-dessus, eh bien elles vont pouvoir s'évaporer.
Ce qui donne des éléments de confort personnel aussi, parce
exactement.
parce que il n'y a rien de pire comme sensation de froid que sa propre chaleur soit absorbée par des éléments froids et réciproquement. Bon, tout ça, vous le saviez déjà, vous l'avez appris dans une formation universitaire.
Alors j'ai appris tout ça, je le savais déjà parce que je suis allée vers ces matériaux-là pour ça, mais c'est vrai que j'ai pu vraiment me documenter, me former plus grâce à la formation que j'ai faite à Albi, d'ailleurs, qui s'appelle l'École européenne des arts et de la matière. Il y a une formation très complète et très très dense.
Alors, est-ce que vous croyez, moi je vais poser une petite question comme ça, est-ce que vous croyez que des gens qui, par exemple, je sais pas, à 17 ans, s'ennuient sur les bancs d'école et à qui on offre une formation, qui deviennent ouvriers du bâtiment et qui font la même chose que vous, mais sans avoir forcément une connaissance ni de ce que ça donne, ni de toutes les techniques, de toutes les fabrications de chaux, hein, parce qu'entre les aériennes, les hydrauliques, les artificielles, les mélanges, etc. Il y a beaucoup de choses théoriques à comprendre.
Oui, les pouzzolanes, enfin oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est passionnant. C'est que c'est un métier où on est obligé, enfin, si on veut bien faire et si on est passionné, on est obligé de se renouveler tout le temps et puis d'essayer toujours de creuser ce qui se passe à gauche, à droite. Et sur l'histoire des matériaux, l'histoire des couleurs, c'est vraiment passionnant. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de pas être un simple applicateur, mais de comprendre les processus et de comprendre ce qu'on fait et de savoir l'expliquer à son client. Enfin, ses clients, c'est quelque chose qui les passionne et c'est un échange qui est vraiment sympa.
Alors, vous avez lâché un mot, là, on y vient, couleur. Comment fait-on pour avoir, en utilisant, je suppose, des pigments naturels, je vous soupçonne de ça.
Naturels ou synthétiques, parce qu'on ne peut pas toujours avoir des pigments naturels. Ouais. Bon, ça dépend dans quelle couleur on se situe.
Bon, ouais. En général, je ne sais pas, par exemple, les ocres. Allez, ouais. on va dire les ocres pour commencer. Comment vous êtes sûr d'avoir une teinte à la fin de quelque chose qui est très sombre parce que mouillé au moment où vous l'appliquez? Il y a vraiment des dosages très 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 pointus à faire.
Mais le meilleur moyen, c'est de faire, c'est travailler en échantillon avant, parce que c'est vrai que on a de grandes surprises. Enfin, c'est une matière vivante, la chaux, que ce soit la terre, la chaux, et les pigments aussi qui viennent de la nature, ce sont des matériaux vivants, donc ils obéissent pas à une science exacte, ils peuvent être un peu capricieux. Et donc oui, c'est vrai qu'ils sont pleins de surprises. Et effectivement, entre le moment où notre enduit est mouillé, où notre peinture vient d'être appliquée, et le moment où elle a séché, on a perdu 50% de la teinte avec la chaux. elle fait perdre 50% de la teinte au pigment. Donc il y a un petit travail d'échantillonnage avant, mais qui peut être très vite fait, mais qui est nécessaire, effectivement.
Ça veut dire quoi, que vous êtes fabriqué un nuancier en sachant exactement les doses? Alors une cuillerée à café pour un seau, pour une bétonnière, parce que là on travaille quand même dans dans des volumes.
Oui.
Quoi, c'est à la cuillerée à café ou c'est à 25 centilitres près?
C'est au pourcentage, en fait. Donc on peut travailler en volume aussi, mais on sait à peu près que au-delà de 20%, 20 à 25% du poids de la chaux en pigment, on arrive au degré de saturation et que ça ne sert plus à rien, en fait. L'enduit ou la peinture ne sera pas plus colorée. Par contre, le pigment, c'est une charge. Donc là, on va rajouter de la charge dans notre mortier ou notre peinture, ce qui va le transformer ou la transformer, et ça, c'est pas bon. Donc, à force de faire, on sait déjà vers quel niveau de coloration on arrive quand on utilise 5%, 10%, 15% ou 25% de pigment. Et alors après, effectivement, il y a aussi un travail de nuancier à faire, et qui a été fait grâce à la formation, et qui est très important, oui.
Alors, bon, moi je vous parlais des ocres parce que je faisais le malin. je savais bien qu'on l'extrayait du sol directement. Vous me parlez de pigments de synthèse?
Oui, alors c'est vrai qu'on a les pigments minéraux naturels, les pigments organiques naturels.
Les oxydes?
Voilà, exactement. Alors organique, c'est tout ce qui vient du monde animal et végétal. Naturel, c'est extrêmement rare aujourd'hui. Enfin, on pense au pastel à la garance, au kermès, à tous ces... Enfin, en minéral, on a le lapis-lazuli, la malachite, l'azurite, qui donnent des bleus et des verts magnifiques, mais c'est extrêmement cher. Ce sont des pigments qui étaient utilisés dans les beaux-arts au Moyen-Âge et jusqu'à l'ère industrielle. Et ensuite, on a eu toute la chimie d'imitation, donc la chimie de synthèse. Où bah là, aujourd'hui, on utilise pour des bleus, par exemple, des bleus outre-mer de synthèse. Donc là, ce sont des procédés chimiques, en fait, qui imitent des bleus indigo, par exemple, qui sont des produits naturels. Mais qui, aujourd'hui, c'est beaucoup trop rare et c'est trop cher.
Mais on a tout l'arc-en-ciel possible, disponible?
Ah oui, ouais. Oui. Les noirs, des bleus, des bruns, des terres de sienne, des ombres nattes. Ça.
Donc rien n'empêche de, je sais pas moi, de faire maner en peinture à la chaux.
Oui, et enfin en utilisant en tout cas des peintures, des pigments naturels. Après, en liant, on n'est pas obligé d'utiliser la chaux. Il y a d'autres liants, le liant huile, la caséine, l'œuf. Il y a d'autres liants, la terre aussi. On peut faire des liants à l'argile. La chaux n'est pas le seul liant pour peindre, mais c'est vrai que on peut faire une toile ou une fresque entière qu'en pigments, et il y a des gammes de pigments qui sont développées à des fournisseurs qui sont très bien, et où il y a vraiment des couleurs magnifiques. Ouais.
Donc vous n'avez aucun problème pour trouver les fournisseurs pour tout ça?
Non.
Pour la chaux, c'est pareil, vous choisissez en fonction d'intérieur, extérieur.
Voilà.
Bon, intérieur, extérieur, vous m'avez dit, mais quoi? Après, il y a plusieurs sortes de chaux, non?
Alors, donc, la chaux hydraulique, comme je disais, qui fait sa prise directement dans l'eau, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est hydraulique, et qui est impure par rapport à une chaux aérienne, c'est-à-dire qu'elle contient 5 à 35% d'argile, va être utilisée à l'extérieur parce qu'elle a un aspect moins joli, en fait. Elle est un peu grisâtre. Donc, elle va être utilisée pour les gros enduits, très épais, ou les travaux d'extérieur, parce qu'elle est résistante aux intempéries. La chaux aérienne, qui est une chaux blanche et qui contient, je crois, moins de 5% d'argile, et qui fait sa prise à l'air, donc directement en contact avec le gaz carbonique de l'air, eh bien, elle va être utilisée pour des travaux plus fins. Donc pour des enduits intérieurs, pour des stucs, pour des badigeons, etc. Et dans la chaux aérienne, à l'intérieur de cette catégorie-là, on trouve la chaux en poudre et la chaux en pâte. Et là, entre les deux, c'est le mode d'extinction, en fait, qui est différent. La chaux en poudre, elle est éteinte par pulvérisation. La chaux en pâte, elle est immergée dans de l'eau pendant très longtemps. C'est un processus qui est plus long. Et donc, la chaux en pâte est de meilleure qualité et plus chère aussi que la chaux en poudre. Et elle permet de travail de stucage vraiment très très joli.
Alors votre atelier s'appelle Le Geste et l'Outil. Oui. Vous avez dit tout à l'heure stuquer, ferrer, oui, sont des techniques violentes, non ? Qui doivent bien user à la fin de la journée.
Oui. Ben oui, c'est vrai qu'on se fait un peu, on se fait mal au bras, mais on se forme aussi, quoi. On s'y habitue. Et puis il faut apprendre à faire les bons gestes, à utiliser son corps de façon à ne pas lui faire trop mal. Mais oui, le ferrage, donc c'est l'application de la lisseuse sur l'enduit qui a fait sa première prise. C'est-à-dire qu'au moment où on l'applique, il faut mieux pas y toucher encore, sinon il y a risque de décollement. Et c'est au moment où il commence à se matifier, à faire sa première prise, qu'on peut venir dessus avec une belle lisseuse japonaise, la Rolls-Royce des lisseuses, qu'on peut le ferrer, c'est-à-dire le serrer un petit peu plus avec sa lisseuse.
Et si en fait, ça a comme effet que l'humidité revient à la surface, c'est ça, quand on...
Ben, ça a pour effet de le fermer complètement, en fait. C'est-à-dire que pour les stucantaires, par exemple, pour les enduitaires, c'est très important. Ça va éviter le farinage, par exemple, et les fissurations. Donc il va sécher de façon cohérente et il va vraiment avoir un aspect brillant. Plus on appuie dessus, plus on insiste, et plus il va briller, et plus on va aller vers l'effet du stuc, qui est vraiment l'enduit qui est en effet de marbre, en fait, hein, vraiment très brillant.
Est-ce que vous craignez pas qu'avec votre niveau de compétences, d'études, de savoir, etc., vous soyez vécu comme la Rolls des enduits de finition et de la patine, et que du coup on se dit, oh, elle doit être très très chère, on peut même pas parler de prix au mètre carré, non ?
Là. Ah non, mais ce que j'en dis, ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur chantier. Ça, c'est là qu'il faut que je fasse mes preuves. C'est là, et je suis encore au début du parcours. J'ai encore au niveau de mon expérience chantier. J'ai déjà 2 ans derrière moi, donc c'est déjà bien. Là, j'ai encore des tas de choses à apprendre et j'ai encore mes preuves à faire, quoi. Donc non, je ne suis pas hors de prix, pas du tout.
Vous travaillez dans des grandes distances, je suppose, bien que vous soyez installé sur la commune de Caylus, c'est oui. la raison pour laquelle vous êtes invité mm-hmm. ici. Vous êtes preneuse de bouger ?
Ah oui, parce que... Il faut aller travailler là où ça se passe, quoi. Donc s'il y a des projets intéressants sur Montauban, si j'ai des demandes sur Toulouse, sur Gaillac, sur Albi, oui je j'irradie là autour de mon petit village de Caylus et jusque dans le nord du Lot, parce que j'ai la chance d'avoir des pieds à terre un petit peu partout, donc je peux être hébergée dans pas mal d'endroits, donc oui, je bouge.
Alors pour vous contacter, ben on passe par la messagerie, hein, c'est vanessa.bourgard, bourgard@gmail.com, parce que vous n'avez pas envie d'être embêté sur un chantier. Souvent, quand on a les gants avec les mains pleines de chaud, on décroche pas son téléphone portable, sinon voilà. Il est pourri.
Oui, par mail, c'est...
Voilà, donc vanessa.bourgard@gmail.com.
Voilà, c'est
quelque
ça.
Chose à ajouter pour votre défense ?
Pour ma défense, rien, mais je dirais juste, lâchez rien, voilà. C'est tout.
Merci Vanessa.
Et merci à vous.
Le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez de bon après-midi à l'écoute des programmes de CFM.